RFJ Info.
Le journal de Leïla Hussein.
Bonjour. Intégrer les jeunes migrants via une formation, c'est l'objectif d'un projet pilote lancé en janvier dans le canton du Jura. Ils sont une cinquantaine à participer au programme. Le jeune Warzame Adam Nimale en fait partie. Il nous fait part de ses impressions dans ce journal. Une halle de gym refaite à neuf, y aura-t-il ? Le Conseil général de Haute-Saône doit se prononcer ce soir. Les élus devront voter sur un crédit de plus de 211 000 francs prévu à cet effet. Le Paléo Festival de Nyon s'offre les Red Hot Chili Peppers. Les organisateurs ont levé le voile sur la programmation de cette 42e édition. Elle se tiendra du 18 au 23 juillet. Entre nuages et soleil, le ciel sera partagé aujourd'hui. Le voile nuageux sera surtout présent dans les franches montagnes cet après-midi. Côté température, la douceur est de mise. Le mercure montera jusqu'à 19 degrés. Le Jura mise sur la formation pour intégrer les jeunes migrants. Un projet pilote financé par la Confédération a été lancé en début d'année. Il s'agit d'une préparation au pré-apprentissage. 50 jeunes migrants de 16 à 25 ans profitent de cette formation au Cégep à Delémont et à Port-Antruy. Une formation de 6 mois mise en place sous l'égide de l'AJAM, l'Association Jurassienne d'Accueil des Migrants, en collaboration avec divers partenaires dont Avenir Formation. L'accent est mis sur l'apprentissage du français, mais pas seulement. Le responsable du projet au sein d'Avenir Formation, Vincent Mussolino.
L'idée principale, c'est de faire le rattrapage en français, puisque c'est le français qui est la pierre angulaire de leur avenir professionnel en Suisse. Et donc, c'est 12 leçons par semaine de français et 2 de culture générale dans lesquelles ils apprennent le français, la culture jurassienne, la culture suisse, à s'exprimer, à lire, à écrire. Donc vraiment, pour qu'ils puissent arriver prêts en pré-apprentissage ou en apprentissage, finalement, pour rattraper et se mettre dans le même flux que l'ensemble des élèves qui suivent la filière standard.
Il y a aussi une place qui est accordée à la formation, je dirais, directement en entreprise.
C'est-à-dire qu'à peu près toutes les 2 semaines, ils ont l'occasion d'aller faire ce que nous, on appelait des visites stages. C'est pas vraiment des visites, c'est pas vraiment des stages, c'est un peu entre les deux. Donc, ils vont en groupe dans une institution ou une entreprise de la région pour voir le métier, toucher, essayer, tenter. Ça leur donne aussi l'occasion de s'auto-évaluer, de dire est-ce que ça me plaît, est-ce que j'ai des habiletés ou des compétences dans ces métiers-là ou pas. Et ça, c'est important pour qu'on puisse les orienter correctement par la suite.
Les jeunes qui suivent la préparation au pré-apprentissage viennent de divers pays comme la Syrie, l'Afghanistan ou encore la Somalie. Warzame Adam Nimale a 20 ans et vient de Somalie. Il nous explique ce que lui apporte cette formation.
Cette formation, c'est une opportunité pour moi d'améliorer mon niveau de français et d'apprendre les mathématiques. On apprend la culture générale. On apprend aussi de faire des stages dans une entreprise et de s'adapter dans le milieu professionnel.
Vous avez un rêve, vous souhaitez faire quel métier ?
Oui, mon rêve, c'était mon rêve d'enfance. Moi, quand j'étais petit dans mon petit village, il y a des organisations internationales qui venaient dans notre petit village. Et mon rêve, c'était d'être un infirmier, soigner les personnes qui ont besoin vraiment d'être soignées.
Et vous espérez justement pouvoir parvenir à ce rêve ici ? Vous avez déjà un petit peu fréquenté ces milieux ?
Oui, j'ai déjà commencé en fait des stages dans une home, à l'hôpital, à la promenade. Et je continuerai d'atteindre mon rêve et de réaliser.
Un dossier réalisé par François Comte. La formation vise à déboucher sur l'obtention d'une place en pré-apprentissage. La JAM lance un appel aux entreprises pour qu'elles s'engagent à former de jeunes migrants. Les ministres jurassiens se la jouent 2.0. Les membres de l'exécutif cantonal sont tous présents sur Twitter depuis bientôt un mois. Ils partagent et commentent certaines actualités. Les précisions de Michel Léoni.
Nous avons profité de la réception jurassienne à Baselworld hier soir pour aborder ce thème avec nos autorités. Les membres du gouvernement ont décidé avec une impulsion commune d'être présents sur ce réseau social. Ils n'ont toutefois pas signé de charte, mais partagent la volonté de ne pas tweeter tout et n'importe quoi. David Herret.
Alors on essaye de différencier les choses. Ça va rester purement professionnel. Parce que si on commence à mélanger, une découverte de 3 morilles dans un coin de forêt avec un investissement à l'office des véhicules ou une autre thématique, ça ne va pas être très cohérent et là on essaie d'avoir une ligne assez propre et assez claire.
Même son de cloche chez le ministre de l'économie, pour Jacques Gerber, il s'agit surtout de mettre en valeur le travail des autorités.
J'entends pas me profiler personnellement à travers des tweets, mais donner une information sur l'action du gouvernement, sur l'action du ministre en charge du département de l'économie et de la santé avec finalement des informations très formelles où les gens peuvent aller puiser d'autres informations, que ce soit sur Facebook ou encore sur Internet.
Pour vous, on est vraiment dans un compte officiel, pas personnel.
Pour moi, Twitter, c'est vraiment le compte officiel de mon action départementale coordonnée avec le gouvernement.
Nathalie Bartolo est-elle débutante sur Twitter? Elle y voit une opportunité d'aller au-delà de la communication traditionnelle.
Les premiers pas sont relativement faciles. C'est vrai que je ne connaissais pas Twitter, j'étais avant sur Facebook. Et je dois dire que j'apprécie l'aspect plus court des nouvelles qu'on met sur Twitter. Avec le temps et l'expérience, je constate que c'est aussi une manière pour moi de peut-être aussi donner mon appréciation sur certains sujets d'actualité, mais avec mon avis et pas un avis qui est construit par d'autres personnes.
Marcel Courtet est également un néophyte sur Twitter, mais il a une grande expérience de Facebook. Il voit les avantages de sa présence sur les réseaux sociaux, mais également les inconvénients.
Ça a des avantages qui sont effectivement cette proximité, le fait de pouvoir communiquer avec les gens par un autre biais, donc je trouve que c'est intéressant, permettre aux gens de réagir. Donc tout ça, c'est positif. Après, moi, ce que je crains vraiment, c'est pas tellement les réactions des gens, mais c'est le temps qu'il faudrait y passer pour argumenter. Parce que j'ai déjà fait l'expérience quelques fois, en partant dans un sujet très politique, voire polémique, les gens réagissent et le débat est assez intéressant. Par contre, alors, il faut y consacrer vite quelques dizaines de minutes, voire l'heure y passe, et ça, je pense que dans nos agendas, on peut guère se permettre, en fait.
Autre particularité de Twitter, n'importe qui possédant un compte peut désormais interpeller directement un ministre, lui soumettre ses questions, voire le contredire, ce qui n'est pas un problème, en croire Charles Juillard.
Je crois qu'on a tout intérêt à avoir le contact avec la population. Moi, j'étais déjà un peu présent sur Facebook et j'ai toujours répondu aux critiques, aux questions, aux remarques qu'on formulait. Et je crois qu'après la discussion, on arrivait pas forcément toujours à être d'accord, mais au moins à comprendre, de mieux se comprendre les uns les autres. Et c'est aussi la volonté du gouvernement de mieux expliquer sa politique et d'être plus proche des préoccupations de nos concitoyennes et de nos concitoyens.
Nos cinq ministres sont donc aujourd'hui actifs sur Twitter. Ils y partagent leurs activités professionnelles ainsi que l'actualité du gouvernement jurassien.
Un dossier sur la présence des ministres jurassiens sur Twitter réalisé par Michel Léoni avec la complicité de Cédric Hardover. Troisième séance de l'année pour le Parlement jurassien. Le législatif se réunit demain à Delémont. Il abordera plus d'une vingtaine de points, sans compter le yass annuel des élus prévu en fin de journée. Une large partie des débats sera consacrée au personnel de l'État, une problématique qui fait écho à la rupture des rapports de travail entre le canton et la chef du service de la consommation et des affaires vétérinaires, Anne Sépi. Une rupture qui avait fait couler beaucoup d'encre, Raphaël Chalvera.
Les indemnités de départ versées à Anne Sépi ont provoqué des remous dans la sphère politique. Souvenez-vous, l'État jurassien et l'ancienne chef du SCAV s'étaient séparés d'un commun accord en janvier dernier, selon des modalités convenues entre les deux parties. Anne Sépi a quitté son poste avec l'équivalent de 12 mois de salaire. Ce mercredi, les députés se pencheront sur sept interventions liées à cette affaire, un combat en quelque sorte contre les parachutes dorés. Le PCSI Thomas Schafter et le PLR Edgar Sauzer demandent notamment la création d'un statut particulier ou de dispositions légales différenciées pour les chefs de service. Ces motions visent, entre autres, à régler la problématique de la paye des heures supplémentaires, parfois conséquentes, en cas de résiliation des contrats de travail. Le gouvernement appelle le Parlement à accepter ces motions. L'UDC Philippe Rotet demande pour sa part un remplacement de certains articles de la loi sur le personnel de l'État par les dispositions du Code des obligations. L'exécutif propose d'accepter la motion sous forme de postulat. Les élus discuteront encore de trois questions écrites et d'une interpellation sur le sujet.
La traditionnelle heure des questions orales démarrera demain à 8h30. Vous pourrez la suivre en direct sur RFJ. L'intégralité de la séance peut être suivie en vidéo sur notre site internet. L'école au cœur du Conseil général de Haute-Sorne, le législatif de la commune fusionnée, se réunit ce soir à Basse-Cour. Les élus devront voter un crédit de 211 600 francs pour la rénovation des vestiaires, douches et sanitaires de la halle de gymnastique de l'école secondaire. Ils se prononceront également sur la création d'un poste de secrétaire pour le cercle scolaire primaire de Haute-Sorne. Les précisions d'Alexandre C.
Le Conseil Général avait accepté l'an dernier le principe. La fusion de Haute-Sorne a en effet entraîné la constitution du deuxième cercle scolaire primaire le plus important du canton. Celui-ci compte plus de 600 élèves et 60 enseignants. Le Conseil communal propose donc la création d'un poste de secrétaire à 30%. Concernant les sanitaires de la halle de gymnastique de l'école secondaire, ces derniers sont dans un état de dégradation très avancé, selon l'exécutif. Les tuyaux sont rouillés et un vestiaire sur deux ne peut plus être chauffé correctement. Le crédit est notamment destiné destinés à remplacer les sanitaires ainsi que toute la tuyauterie.
Les élus devront également préaviser un crédit de 1,5 million pour l'assainissement complet de l'éclairage public avec la technologie LED. Ils se prononceront enfin sur un crédit de 314 300 francs pour la réfection de la route cantonale entre le passage à niveau de Glovelier et le giratoire A16. The Age of Décadence part à la conquête de l'étranger. Le premier album de Silver Dust sorti il y a un an en Suisse, fera sa grande entrée en Europe le 23 juin prochain. Le groupe jurassien a annoncé ce matin avoir signé avec un label allemand. Le chanteur Kiki Crétin et ses musiciens se produiront notamment en Autriche, en France et en Italie. Sans oublier la Suisse, effectivement, le leader Kiki Crétin voit grand pour Silver Dust.
Disons que le but a été toujours pour Silver Dust de pouvoir profiter de cette fameuse tournée européenne que nous avons fait avec l'ordi. On a eu la chance qu'on nous voit évoluer pendant 2 mois sur les scènes internationales. Et tout naturellement, on a rencontré beaucoup de gens. Beaucoup de gens nous ont proposé de développer le groupe et on est très très contents parce que voilà, avoir une distribution européenne d'un album pour un groupe qui vient de Suisse comme nous, c'est un pas énorme et surtout on avait mis un pas dans l'international. Maintenant on en met un deuxième et on va continuer à avancer.
Vous dites plusieurs propositions lors de la tournée, c'est incroyable d'avoir plusieurs propositions.
Oui, bien sûr, voilà, le but était de se faire remarquer. J'ai toujours eu assez confiance au projet Silver Dust parce qu'on présente quelque chose d'unique et de différent des autres groupes.
Le groupe jurassien Silver Dust travaille déjà sur son deuxième album pour une sortie prévue en 2018. Du piment pour la 42e édition du Paléo Festival de Nyon. Les organisateurs de la manifestation ont réussi le coup de maître de faire venir les Red Hot Chili Peppers sur la plaine de Laas. La chanson française est aussi bien représentée du 18 au 23 juillet avec entre autres Renaud, Christophe Maé et Julien Doré. Sarah Massy.
Une édition forte, éclectique et pimentée. C'est avec ces mots que le patron du Paléo, Daniel Rosla, a décrit la programmation de la 42e édition de la manifestation. Le seul et unique passage des Red Hot Chili Peppers en Suisse romande date de 1988. Presque 30 ans plus tard, le groupe californien revient en star absolue. Il monte sur scène le mardi 18 juillet. Fool se produit le même jour. Parmi les autres têtes d'affiche annoncées, Arcade Fire, Midnight Oil ou encore les Pixies feront vibrer le public le mercredi. La chanson française n'est pas en reste avec le concert le même jour de Julien Doré. Renaud marque aussi son retour à Paléo. Le chanteur qui est toujours vivant, toujours debout, va à la rencontre de son public le samedi, tout comme Christophe Maé.
À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a.
Justa et son encore Manu Chao fouleront également la plaine de Laas. En tout, 93 artistes défileront sur les 5 scènes principales du 18 au 23 juillet. Standing in line to see the show tonight and there's a light
on heavy glow. La vente des billets et abonnements s'ouvre mercredi de la semaine prochaine. Les Suisses n'auront peut-être pas à se prononcer sur la préférence indigène pour limiter l'immigration de masse. Le référendum contre la mise en application du vote du 9 février devrait en effet échouer. Son coordinateur, le Tessinois Nenad Stojanovic, ne croit plus pouvoir récolter les 50 000 signatures nécessaires d'ici au 7 avril. Les référendaires n'ont pas réussi à convaincre de la nécessité d'un vote clarificateur. À Berne, les précisions de Jérôme Favaretto.
Nenad Stojanovic explique cet échec par le manque de temps, de moyens financiers et de personnel des comités référendaires pour récolter les signatures. Leur tâche n'a pas été facilitée par les partis acquis à la préférence indigène qui auraient convaincu leurs membres de ne pas signer le référendum. Malgré tout, Nenad Stojanovic estime que cet échec permet de clarifier les choses.
On est aujourd'hui dans une situation meilleure par rapport à la situation à mi-décembre, lorsque le Parlement avait voté cette loi que certains partis ont jugée anticonstitutionnelle ou même ils ont parlé de la trahison du peuple. Aujourd'hui, aujourd'hui, on peut dire voilà, le référendum a été lancé, il n'y a pas eu assez de signatures pour arriver à une votation populaire, et donc indirectement, c'est aussi un signe que la majorité des citoyennes et des citoyens sont contents avec la solution adoptée par le Parlement.
La population aura encore une possibilité de se prononcer via l'initiative Raza, qui a abouti et propose de biffer le vote sur l'immigration de masse. Le Conseil fédéral devrait proposer un contre-projet au Parlement fin avril, mais aucun parti n'a soutenu les variantes mises en consultation. Si les chambres confirment cette opposition, les Suisses se prononceraient uniquement sur l'annulation du vote du 9 février.
Et à l'étranger, le cyclone Debby déferle sur le nord-est de l'Australie. La région a essuyé ce matin les pluies torrentielles et les vents violents accompagnant ce cyclone. L'arrivée de ce dernier a provoqué l'évacuation anticipée de plusieurs milliers d'habitants. La tempête a été accompagnée de rafales à 270 km/h. Pénélope Fillon a rendez-vous avec la justice. L'épouse du candidat de la droite française à la présidentielle, François Fillon, est attendue aujourd'hui chez les juges en vue d'une inculpation. Elle est au cœur d'un scandale sur des emplois fictifs présumés. L'épouse discrète de François Fillon aurait perçu près de 70 000 francs comme assistante de son mari à l'Assemblée nationale. Elle a aussi été employée dans la revue des Deux Mondes, propriété d'un proche de son mari, sans être jamais allée sur place.
RFJ 12h31.
Le sport avec la loterie romande.
David Goffin en tête d'affiche du Swiss Open de Gstaad. Les organisateurs du tournoi de tennis oberlandais ont annoncé aujourd'hui la participation du récent quart de finaliste de l'Open d'Australie, matricule 12 à l'ATP. Le Belge s'était hissé jusqu'en finale lors de l'édition 2015. Il avait été battu par l'Autrichien Dominic Thiem. Le Swiss Open de Gstaad se tiendra du 22 au 30 juillet.
Merci Leïla, et comme toujours, l'info en continu et en tout temps se trouve sur rfj.ch. Là, c'est la météo, et ensuite de quoi, ce sera le conseil Raiffeisen. Et selon Météo News, l'arrivée progressive de cumulus réduiront l'ensoleillement au fil des heures, notamment sur les franches montagnes où quelques gouttes ne sont pas totalement exclues cet après-midi. Le mercure affiche des maxima de 14 degrés à Seignelay-Gier, 17 à Porrentruy et 18 à Delémont et Moutier. Demain, il y aura de rares bandes nuages bas le matin, sinon le temps sera ensoleillé avec des cumulus dans l'après-midi sur les reliefs, une fois encore plus étendus dans les franches montagnes, mais ne donneront pas d'averses, nous dit-on. Il fera à l'aube 1 degré aux franches montagnes et jusqu'à 5 en pleine, puis au mieux entre 15 et 19 sur notre région.